Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bienvenue à votre journal de 7h, heure de Kinshasa, 8h pour vous qui êtes au centre du pays. Au micro, Babel Pongo Massimango. Nous parlerons de la lutte contre Ebola avec ce nouveau renfort de la Banque mondiale. Elle vient d'ajouter 10 autres millions de dollars, ce qui porte son financement à 73 millions. Argent destiné à soutenir la riposte du gouvernement et renforcer la prévention tant au niveau national que régional. Nous serons en Kivu avec ce rapport que vient de publier le réseau pour le droit de l'homme Rideau. Il signale plus de 40 cas de meurtre et d'assassinat rien qu'au premier semestre de cette année à Butembo et dans ses environs. Le réseau appelle les autorités à renforcer la protection des civils et la lutte contre l'impunité. Comme invité, Ghislain Mupenzi Kamondo, directeur exécutif de Congo Agri. Sa coopérative vient d'organiser à Goma la 3e édition de la conférence et du concours de qualité dit Best of Congo Coopératives, événement qui a permis à une vingtaine de coopératives de producteurs et d'exportateurs de mettre en exergue la qualité de leur café et de leur cacao. Madame, Monsieur, bonjour. Lutte contre Ebola et son financement. La Banque mondiale revient à la charge. Sur les 63 millions de dollars américains déjà versés, cette institution financière vient d'ajouter 10 autres millions de dollars américains, ce qui porte son financement à 73 millions de dollars. Objectif, soutenir les efforts de riposte du gouvernement et renforcer les capacités de prévention au niveau national et régional. L'annonce a été faite hier samedi à Kinshasa par Albert Zufak, directeur pays de la Banque mondiale pour l'Angola, le Burundi, la RDC et le Sao Tomé et Principe. Cette épidémie, comme vous le savez, touche les provinces du Nord et du Sud Kivu, ainsi que de l'Ituri. D'autres détails avec Ella Chimbalo.
Selon le directeur pays de l'institution, Albert Zeufak, ces réseaux serviront à soutenir la mise en œuvre du plan de riposte du gouvernement. Il précise que 46 millions de dollars sont déjà mobilisés dans les cadres du projet de préparation, des ripostes et des résiliences aux urgences sanitaires, mises en œuvre en collaboration avec le ministère de la Santé. Ces fonds, souligne-t-il, sont déjà disponibles et en cours de décaissement. L'institution accompagne également les efforts de préparation au niveau régional, en partenariat avec Africa CDC et les pays voisins, afin de prévenir toute propagation transfrontalière de l'épidémie. Pour la Banque mondiale, ces renforcements du financement doivent permettre de rendre la riposte plus efficace et de mieux faire face à cette urgence sanitaire. Notez qu'en date du 17 mai, soit 2 jours après la déclaration officielle de l'épidémie en RDC, l'Organisation mondiale de la santé a classé Ebola comme une urgence publique de portée internationale.
Ebola toujours avec ce nouveau-né. Il s'agit d'un centre de traitement de la maladie à virus Ebola, ouvert hier samedi à Beni. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée dans cette ville du Nord Kivu, en présence des partenaires techniques du gouvernement congolais engagés dans la riposte contre cette épidémie. Ce centre est situé dans l'enceinte de l'hôpital général de référence de Beni et dispose d'une capacité d'accueil de 20 lits et répond aux normes requises pour assurer la sécurité des malades ainsi que du personnel soignant. Dr Jérémy Mouindo, médecin directeur de l'hôpital général de référence de Beni et gestionnaire du centre, revient sur les avantages de cette nouvelle infrastructure. Il est au micro de Marc Marofimbo.
Un ouvrage qui va contribuer sans doute à soigner les malades, mais aussi contribuer à l'éradication de la maladie. Parce qu'ici, lorsqu'on isole un malade, c'est que là, on coupe rapidement la chaîne de propagation ou de contamination. Donc, quand un malade est isolé, il n'est plus en contact avec les membres de la communauté. Et non seulement qu'il est isolé, mais aussi, il est soigné, il est traité selon son cas. C'est vraiment un centre qui répond aux normes de biosécurité, parce qu'ici, c'est la sécurité du personnel, mais aussi c'est la sécurité du patient. Donc tous les patients qui vont bénéficier des soins ici, ils vont bénéficier d'une prise en charge holistique dans une approche d'humanisation des soins. Lorsque on parle de l'approche des soins qui sont centrés sur les malades, vous avez vu que les malades en état isolé, le contact avec les membres de sa famille n'est pas coupé. Il peut communiquer avec sa famille à travers des fenêtres qui sont vitrées, et aussi cette configuration permet mais la surveillance même du malade à distance. Donc ici, ce sont les équipes soignantes.
Docteur Jérémy Mouindo, médecin directeur de l'hôpital général de référence de Beni, qui gère donc ce centre. Avant de quitter le chapitre consacré à la santé, notez qu'une maladie non encore identifiée suscite inquiétude dans les secteurs de Bapéré, au Nord Kivu. Au moins 9 personnes sont décédées en l'espace de 2 semaines seulement à Mangoumou, un carré minier situé à environ 250 km de Butembo, explique la société civile locale. En ce qui concerne les symptômes. Les victimes présentent notamment la diarrhée avant leur décès. Samuel Lomaheni, président de la société civile, appelle les autorités sanitaires à mener des investigations afin d'identifier cette maladie et d'éviter une éventuelle propagation. Il explique la situation au téléphone de Martial Papimukeba.
Aujourd'hui, on parle de 9 décès jusque là.
Et on signale bien sûr aussi d'autres malades qui sont agonisants.
Ils présentent une diarrhée et c'est ce qui conduit bien sûr à sa mort. Les victimes sont recours bien sûr à des traitements traditionnels et ça c'est déjà aussi un danger.
C'est pourquoi la société civile lance une fois encore ses alertes et surtout les villages se trouvent à une distance d'au moins 4 jours, 5 jours de marche. Il y a la population qui est en train de quitter pour venir se réfugier soit à Mangurejipa, soit à Ndiapanda, soit monter vers Lubero. Oh, en tout cas, les autorités sont appelées à prendre des mesures qui sont nécessaires en fait de voir comment détecter si cette maladie ou ces décès sont liés à quel type d'épidémie, en fait de sauver les vies de cette paisible population et qu'on ne puisse pas enregistrer plusieurs cas de contamination au sein de la population.
Meurtre, assassinat et justice populaire, c'est le tableau préoccupant de la situation sécuritaire à Butembo et dans ses environs au Nord Kivu, tableau dressé par le réseau pour les droits de l'homme Redo. Dans son rapport semestriel publié vendredi, cette organisation basée à Butembo affirme avoir documenté plus de 40 cas de meurtre et d'assassinat au cours de ces premiers mois de cette année. Elle dénonce enfin la persistance de l'insécurité et appelle les autorités à renforcer la protection des civils ainsi que la lutte contre l'impunité. Martial Papi Mukeba nous donne plus de précisions sur ce rapport.
Dans son rapport semestriel, les réseaux indiquent avoir documenté plus de 40 cas de meurtres, d'assassinats et de la justice populaire entre janvier et juin 2026 dans la ville de Butembo et les territoires voisins de Beni et de Lubero. L'organisation révèle que la commune de Bulengera est la plus touchée avec 10 cas enregistrés au cours de cette période. Face à cette situation, le coordonnateur du réseau, Maître Muhindo Wasivinywa, appelle les autorités à renforcer les enquêtes et à poursuivre les auteurs de ces crimes.
Pour les 6 premiers mois de cette année 2026, le réseau a documenté plus de 41 cas de meurtres et assassinats à vie de Butembo et Aviro. La commune Bulengera a enregistré plus de cas. 10. Le réseau recommande aux services de sécurité à plus de vigilance afin de prévenir le mal contre la population, aux instances judiciaires, civiles et militaires de mener les enquêtes sérieuses et ouvrir des dossiers contre les auteurs.
Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore obtenu la réaction des autorités de Butembo à propos de ces rapports. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
En direction la partie ouest de la RDC, le Congo central où un nouveau drame s'écoule le territoire de Mbanzangongo. Le corps sans vie d'un jeune homme d'une vingtaine d'années a été découvert hier samedi dans la brousse, dans le groupement Makuta, près de la concession de la Sogenac. Ce corps présente des classes de blessures ressemblant à celles causées par des coups de machette. Le visage est presque méconnaissable. Selon plusieurs sources locales, ce n'est pas la première découverte macabre enregistrée dans cette zone. Une situation qui alimente l'inquiétude des autorités locales, de la population ainsi que de la société civile. Élise Kavira.
La découverte de ce nouveau corps avive un sentiment de peur chez les habitants d'Mbanzangongo. Plusieurs d'entre eux rappellent que des cas similaires ont déjà été enregistrés dans la zone sans que les auteurs ne soient identifiés. Victor Nzuzimbembe, notable du territoire et membre de la société civile, dénonce une série de morts non élucidées.
Malheureusement, c'est la 6e fois qu'on trouve un corps sans vie dans le milieu. Pour cette année, c'est la 2e fois. Dernièrement, il y a 2 mois, je crois, c'est un motard qui a été retrouvé mort et jeté dans la rivière. L'année passée, il y a eu un agent de l'INERA qui a été retrouvé mort dans de mêmes circonstances.
Pour lui, l'absence des résultats des enquêtes précédentes entretient la peur au sein de la population et favorise un sentiment d'impunité.
Aujourd'hui, c'est inquiétant. Les enquêtes, c'est sans suite. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Nous travaillons dans la brousse. Très souvent, on rentre le soir. Et donc, nous demandons vraiment aux autorités de pouvoir s'y atteler.
La victime n'a pas encore été identifiée faute de documents d'identité. Selon la police locale, en raison de l'état avancé des décompositions du corps, les services compétents procéderont à son inhumation. Des prélèvements ont toutefois été effectués et une enquête sera ouverte. Matadi, Elis Kavira, Radio Okapi.
Parlant à présent de la célébration hier samedi de la Journée internationale des coopératives, cette deuxième commémoration officielle a eu lieu à Kindu, dans la province du Maniema, en présence du ministre d'État au développement rural, devant les membres des coopératives venus des 26 provinces du pays. Grégoire Mouchaël Moutamb réitère l'engagement du gouvernement congolais à relever les défis de stimuler l'économie locale en créant des emplois et à renforcer la cohésion sociale face aux crises. Suivez cet extrait du discours du ministre Grégoire Mouchaël, choisi par Florence Kizalunga.
Le monde célèbre la Journée internationale des coopératives, avec comme thème international les coopératives au service de la paix dans le monde. En s'inspirant de ce thème, notre pays en proie à une guerre d'agression lui imposée par le Rwanda et ses supplétifs de AFC M23 a opté pour un thème national qui est les coopératives, un des enjeux majeurs pour la paix et la sécurité en République démocratique du Congo. Placée sous le signe de la paix, cette journée met en lumière un modèle économique inclusif, démocratique et résilient, capable de stimuler l'économie locale, de créer des emplois et de renforcer la cohésion sociale face aux crises. Elle est célébrée à Kindu, dans la province du Maniema, afin d'attirer l'attention sur les coopératives et montrer comment celles-ci contribuent à la paix dans la société en renforçant l'économie locale. C'est pour ce faire, le gouvernement est résolument engagé à relever ces défis pour le bien de nos communautés rurales et périurbaines.
Le ministre d'État au développement rural. Les agents de la division provinciale de l'urbanisme, grincent des dents dans le Haut-Katanga et décrit ce qu'ils qualifient d'usurpation de leurs attributions par le guichet unique des permis de construire GUPEC. Dans une déclaration le week-end à Lubumbashi, ils indiquent que le guichet unique est un service qui fait partie intégrante de la division provinciale de l'urbanisme. Mercredi déjà, ils ont eu à manifester leur mécontentement devant l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Pour sa part, le directeur provincial du GUPEC affirme que les textes sont clairs au sujet de la création du guichet unique. C'est un service à part entière. Explication pour Paul Munanga.
Les agents de la division provinciale de l'urbanisme du Haut-Katanga se sont rendus à l'Assemblée provinciale scandant des chansons. Sur place, ils ont lu leur mémorandum. Ils ont signalé notamment les malaises qui prévaut au sein de leur service. C'est notamment l'arrestation des agents. En outre, ils dénoncent l'interdiction aux agents d'effectuer des missions sur le terrain au profit du GUPEC. Une décision prise par le ministre provincial de l'urbanisme. Un syndicaliste des agents s'exprime.
Déplorons la situation amère qui se passe dans la province du Haut-Katanga à la division provinciale de l'urbanisme. Dans ses attributions usurpées par un guichet unique de délivrance des permis de construire, les attributions de l'urbanisme jusqu'alors concernant les constructions, les démolitions, les transformations intérieures, extérieures, les installations des stations-service, les installations des panneaux publicitaires sont l'apanage de l'urbanisme.
Le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Michel Kaboué, a demandé que l'on sursoie les services des GUPEC en attendant des éclaircissements au sujet de cette confusion avec la division provinciale de l'urbanisme afin de départager les deux services. Contacté, le directeur provincial du GUPEC du Haut-Katanga, Souvien Kisimba, déclare que son service a été légalement créé et il n'y a pas à polémiquer à ce sujet. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Retour à Kinshasa pour parler des routes. La dégradation progressive de la chaussée Petro-Congo dans la commune de Massina, notamment, dès son entrée sur l'avenue Kingabo, inquiète. Les usagers de cette voie se plaignent car en plus, un énorme nid de poule situé entre l'avenue Ouassa et Orientation complique la circulation et provoque des embouteillages au quotidien. Ces habitants qui espéraient l'élargissement de la chaussée tel qu'annoncé par les autorités de la ville attendent toujours depuis plus de 6 mois le début des travaux. C'est Ferrand Paca.
Entre poussière et impraticabilité, les usagers de la route Petro-Congo haussent les tons pour dénoncer le calvaire quotidien auquel ils font face. Depuis la dégradation progressive de la chaussée sur cet axe routier, Israël Fumba, habitant du quartier, raconte son désarroi face à cette situation.
C'était vraiment pas considérable ce qu'on pouvait résoudre en moins d'une semaine. Une fois constaté le fait, on pouvait directement agir, mais ça a beaucoup traîné et l'état s'est dégradé de pire en pire. Ça empêche la circulation, ce n'est pas un état. Quand il pleut, Heureusement que nous sommes à la saison sèche. C'est compliqué parce qu'il y a trop de boue.
Pour Junior, cambiste délogé lors des démolitions, l'espoir demeure. Il attend le lancement de travaux de réhabilitation et l'élargissement de la route afin de reprendre ses activités dans les meilleures conditions.
Il y a une forte circulation par ici, moto, piétons et véhicules. Voilà pourquoi les autorités avaient pris l'initiative de démolir pour élargir la chaussée, mais une année entière est déjà passée sans suite. Dans d'autres communes, les travaux évoluent et ici, tout tarde encore. Cette réhabilitation sera avantageuse pour nous tous.
En attendant une réponse favorable des autorités, les usagers de cet axe routier continuent de subir un calvaire pour circuler et accéder facilement sur le boulevard Lumumba.
Actualité internationale.
Les États-Unis ont célébré hier samedi 4 juillet leurs 250 ans d'existence. Donald Trump s'est exprimé la veille sous les visages de canettes de quatre de ses prédécesseurs à la présidence américaine au Mont Rushmore. Un discours très idéologique sur l'identité américaine, victime d'une nouvelle offensive et de la résurgence de la menace communiste. RFI rapporte toutefois que certaines festivités majeures ont été perturbées en raison des fortes chaleurs qui touchent les États-Unis. À Philadelphie et à Washington, par exemple, des parades ont été annulées.
L'invité.
Il s'agit de Justin Mupenzi Kamondo, directeur exécutif de Congo Agri. En partenariat avec African Coffee Connect, sa coopérative a réuni à Goma jeudi et vendredi une vingtaine de coopératives de producteurs et d'exportateurs de café et de cacao. C'est dans le cadre de la troisième édition de la conférence et du concours de qualité Best of Congo Cooperatives. Quels sont alors les principaux défis de la promotion de ces produits sur les marchés internationaux dans un contexte marqué par l'insécurité dans l'est de la RDC? Justin Kamondo répond aux questions de Bernard Denyangui.
Monsieur Ghislain Kamondo, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous êtes en train de clôturer la conférence et concours de qualité café et cacao congolais, troisième édition, c'est-à-dire que cela fait suite aux deux premières éditions.
Justement, on est le 3 juillet 2026. Nous allons clôturer notre conférence Best of Congo Cooperatives 2026, qui est justement une suite de la première édition et la deuxième qui se sont passées successivement en 2024-2025.
Pour cette édition, quels étaient les objectifs?
Les objectifs restent les mêmes. D'abord, ce sont des échanges autour de plusieurs défis du secteur, que ce soit du café congolais, mais aussi au monde. Il y a des défis par rapport au marché, accès au financement. Vous savez que ça va faire déjà des campagnes agricoles, que les banques ici sont fermées et qu'on a du mal pour les exportations. C'est tout ce thème-là qu'on a eu à développer. On a réussi à envoyer aussi les échantillons à Londres, en Grande-Bretagne. On envoie aussi à Bruxelles lors de World of Coffee. Le café Best of Congo Cooperative a été dégusté. Mais aussi, on est allé jusqu'en Corée du Sud, à Séoul, et aux États-Unis d'Amérique, à New York. Donc, on va devoir donner les résultats des scores de dégustation de ces différents jurys qui étaient non seulement à Goma, mais aussi dans ces différents pays. Parce que, au bout de 3 ans, Best of Congo Cooperatives est déjà dans 4 continents pratiquement.
Jusqu'à ce stade, quelle peut être l'évaluation de l'impact de ces conférences par rapport aux activités de production, mais aussi commercialisation de café et cacao congolais?
L'impact est très positif. On a commencé, comme je l'ai dit, en 2024. Et là, c'était seulement 10 coopératives. On avait fait Goma et Londres. C'était seulement 2 villes. L'année passée, on a pu maintenant faire aussi la dégustation au niveau des États-Unis d'Amérique, à Londres et en Corée du Sud. Et les coopératives sont passées de 10 à 20. Donc, c'était le double. Et on a facilité les ventes des Mikolo de 18 coopératives l'année passée. Et pour cette année, on est passé maintenant de 20 à 23 coopératives. Et une mention spéciale, c'est que maintenant, on a proposé aussi les cacao. Il y a 5 coopératives qui ont proposé les cacao, situation des coopératives de Beni. Alors, une autre nouveauté, c'est que on a proposé aussi d'autres méthodes de transformation du café au niveau des stations de lavage. Avant, c'était le café flogged seulement, mais cette année, on a proposé aussi du café naturel, du café anaérobique, mais aussi du café d'impact. C'est le café que nous appelons des marginalisés. C'est le café Mama Kivu, qui est un café produit par les femmes, transformé par les femmes et donc qui a été aussi commercialisé par ces noms-là. Il y a aussi des groupes de pygmées que nous avions essayé aussi d'intégrer dedans, ainsi que des jeunes, parce qu'aujourd'hui, les jeunes, les femmes, ce sont des moteurs du développement, ce ne sont pas impliqués dans les secteurs du café, cacao, il y aura toujours des problèmes, mais aussi sans oublier les pygmées qui ont leur habitat naturel, la forêt, et qu'il faudrait aussi encadrer en ces deux chaînes, parce que s'ils ont des moyens à répondre à leurs besoins, ils vont éviter de s'attaquer à la forêt.
Actuellement, comment vous pouvez évaluer la production, notre production, est à hauteur de quelle quantité, par exemple, pour le café, quelle quantité pour le cacao?
Les statistiques au Congo, c'est ça le plus grand problème, parce que, en réalité, l'organisme chargé de tout centraliser, c'est l'ONAPAC. Et comme vous le savez, il y a déjà bientôt 2 ans que l'ONAPAC est ici à Goma, que ce soit à Bukavu, on n'est pas opérationnel comme tel. Et ça fait que avoir les statistiques de vente, c'est un problème. Mais aussi, il n'y a pas de vente comme telle pour le moment, du fait qu'il y ait certains acheteurs, surtout des grandes comme Starbucks, comme Nespresso, ils ont fui la zone. Ils disent que c'est tous les cafés du littoral. Littoral, quand on parle du littoral, c'est le sud de Kivu, autour du lac Kivu. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas acheter les cafés d'ici. Ça serait financer la guerre. Et ce sont aussi des sociétés qui sont cotées dans des bourses. Il faut aussi les comprendre. Et cela a un coup dur pour les petits producteurs. Et du coup, en tout cas, la grande partie de ces cafés est vendue par des contrebandes. Et cela ne permet pas vraiment aujourd'hui d'avoir des statistiques de production.
Alors, pour cette édition de votre conférence, les participants viennent seulement du nord et du sud Kivu?
Pas seulement le nord Kivu, comme je venais de l'affirmer, parce qu'il y a aussi une coopérative d'Elitouri, de Mambasa donc, qui a aussi présenté ses échantillons. Donc, il y a 3 provinces pour le moment qui sont concernées.
Monsieur Ghislain Kamondo, merci.
Merci.
Il s'agit du directeur exécutif de Congo Agri, interview réalisée vendredi, jour de clôture de cette conférence. Lievin Benga a supervisé ce journal, Alain Angroy la mise en onde et Babène Pongo Massimango vous l'a présenté. Merci à vous qui venez de nous suivre. Bonne journée et dominicale.